Donc, le prochain intervenant, c'est Yann. Il est historien et traducteur. Et depuis 10 ans, il mène des recherches sur l'histoire de la condition homosexuelle dans le contexte tchèque. Vous avez déjà publié en 2012 un livre sur Du cachot à l'hôtel, l'émancipation de l'homosexualité en pays tchèque de 1867 à nos jours. Vous êtes aussi cofondateur d'une association en 2013, Société pour la mémoire queer. La parole est à vous.
Merci. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir préparé ce colloque et de nous avoir donné l'occasion de vous présenter quelques résultats de mes recherches. Et je suis d'autant plus enchanté de me retrouver en ce lieu que c'est à quelques pas d'ici, dans un immeuble face à l'hôtel des impôts du 16e arrondissement, où j'ai habité dans une petite chambre sous les toits lors de mon séjour Erasmus, il y aura bientôt 10 ans, que justement là j'ai commencé à me familiariser avec la littérature traitant de la situation des homosexuels sous le nazisme. Une fois rentré en République tchèque, où ce sujet n'avait pas jusqu'alors fait l'objet de recherches historiques, j'ai donc décidé de lancer une telle enquête là-bas, dans mon pays aussi. J'en ai publié les résultats il y a 2 ans dans un ouvrage collectif en tchèque et je me permettrai maintenant de les résumer. Donc pour ce qui est d'abord des sources, j'ai travaillé avec les archives du tribunal pénal du protectorat à Prague. J'ai consulté les répertoires, donc les registres, ainsi que les dossiers concernant des cas individuels lorsque existants. Ça représente peut-être une différence par rapport à la situation de Vienne, où, comme nous l'avons entendu, les dossiers individuels ne sont pas maintenus. Donc à Prague, à peu près un tiers de dossiers de l'époque qui nous intéresse est maintenu dans les archives. Et j'ai travaillé aussi avec des archives du tribunal pénal allemand de Brno et de la Gestapo Brno, où il s'est maintenu un tout petit nombre, en nombre de 5 à peu près pour chacun des 2 fonds d'archives, donc un tout petit nombre de dossiers concernant la persécution des actes homosexuels et que j'ai utilisé aussi dans mon travail. Pour comprendre la situation, il faut d'abord présenter le cadre légal avant l'occupation de la Tchécoslovaquie. Dans le domaine du droit pénal, la Première République a été caractérisée par un dualisme juridique. Dans les pays qui, sous l'Empire austro-hongrois, avaient appartenu ou bien avaient fait partie de la Cisleitanie, c'est-à-dire en Bohême, Moravie et Silésie, c'était l'ancien code pénal autrichien qui a été en vigueur, tandis qu'en Slovaquie et en Ruthénie subcarpatique, ancienne partie de la Transleitanie, l'on appliquait l'ancien code pénal hongrois, qui, en ce qui concerne les actes homosexuels, était considérablement moins sévère, à part des peines de durée inférieure par rapport à l'ancien code pénal autrichien. L'ancien code hongrois ne prévoyait, toujours au contraire de l'ancien code autrichien, des punitions que pour des actes commis entre hommes, non pas entre femmes, comme nous l'avons déjà entendu. Donc cette situation de dualisme juridique s'est compliquée encore davantage après les accords de Munich en automne 1938, où la région frontalière des Sudètes, qui est assurée en brun sur cette carte, a été incorporée à l'Allemagne. La région de Zaolschi, qui est marquée en bleu, c'est une toute petite région à la frontière polonaise, a été incorporée à la Pologne. Et la Slovaquie du Sud a été incorporée à l'Hongrie. Donc la législation de ces 3 États voisins ont commencé à être d'application dans ces régions occupées, avec pour conséquence une détérioration de la situation des homosexuels dans les Sudètes, à cause du fameux paragraphe 175A du Code pénal allemand. Ce qui est intéressant, une autre conséquence était une décriminalisation des actes homosexuels dans Zaolshi, puisque le code pénal polonais de 1932 ne prévoyait plus le caractère délictueux de ces actes. Et donc l'application du code pénal hongrois dans la Slovaquie du Sud, mais c'était la même situation comme avant. Après le démantèlement du reste de la Tchécoslovaquie et la proclamation du protectorat de Bohême-Moravie le 16 mars 1939, la situation s'est compliquée encore et pour la dernière fois, suite à l'introduction d'un dualisme juridique également au sein du protectorat, c'est-à-dire dans le territoire qui est pointillé en rouge sur la carte. Et dans mon exposé, je vais me concentrer uniquement sur le territoire du protectorat. Pour ce qui est de la situation des homosexuels sous le régime juridique entièrement allemand dans les Sudètes, je me permettrai de vous renvoyer à l'ouvrage de Jean-Luc Schwab, Itinéraire d'un triangle rose, paru en 2010, qui raconte l'histoire de Rudolf Brázda, le dernier déporté pour homosexualité survivant à l'époque, qui maintenant, malheureusement, est déjà décédé, et qui avait vécu avec son arrestation, justement, dans les Sudètes, dans la ville de Karlsbad. Pour ce qui est de la Slovaquie et de la Ruthénie subcarpatique, des recherches restent encore à faire. Or, revenons au dualisme juridique du protectorat qui fonctionnait sur la base de l'ethnicité. En effet, les personnes de l'ethnicité allemande vivant dans le protectorat, c'est-à-dire les citoyens du Reich, relevaient du domaine d'application du code pénal du Reich, tandis qu'aux personnes d'autres ethnicités, c'est-à-dire pour la plupart aux Tchèques, était applicable l'ancien code pénal autrichien. Seulement dans des cas où un Tchèque soit impliqué dans un crime conjointement avec un Allemand, il relevait lui aussi, pour cette occasion, du domaine d'application du code pénal du Reich. La justice du protectorat a été assurée par les anciens tribunaux de la Première République qui continuaient à fonctionner sous un autre nom. Et la justice du Reich a été assurée par des tribunaux allemands dans le protectorat qui ont été nouvellement créés en 1939. Dans le cadre de mes recherches, j'ai effectué avec mon collègue Lukáš Nozar un sondage statistique dans le répertoire du tribunal pénal de Prague avec les mêmes objectifs qu'était celle de Johann Kirchknopf dans le cas de Vienne. Donc de se faire une idée sur les évolutions du taux de persécution judiciaire du comportement homosexuel. Nous avons relevé tous les cas de l'accusation au titre du paragraphe 129b pour une année entière sur 5 entre 1898 et 1943. Donc pour chacune de ces années, de cet intervalle de 5 ans, nous avons, il y a 4 colonnes qui démontrent le nombre d'arrêtés, dont le nombre de condamnés, dont le nombre de condamnés sans sursis. Et voilà donc 4 colonnes. Et l'on peut constater donc, une croissance lente de toutes les colonnes depuis l'instauration de la Première République, c'est-à-dire à partir de cet instant, étant donné que cette année, 1918, la dernière année de la Première Guerre mondiale, on voit que la persécution, en ce qui concerne les chiffres, a connu une grande retombée, parce que, évidemment, les hommes de l'âge productif se trouvait à des champs de bataille. Mais donc, après la proclamation de la République, ce taux a commencé à croître. Et il est évident que la dernière colonne, 1943, là, les chiffres ont atteint des valeurs très... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci. Je m'excuse si on n'a pas pu m'entendre avant. La statistique montre que l'instauration, l'occupation nazie a exercer une influence considérable sur ce taux. Voici le même graphique pour les femmes, où l'on notera une absence totale des cas de persécution des actes homosexuels entre femmes dans quelques années, et tout comme dans le cas des hommes, une importante augmentation de nombre sous l'occupation nazie. De même, la part de procédures pénales pour comportement homosexuel, considérée par rapport au nombre de toutes les procédures pénales de l'année en question, a augmenté d'1% en 1933 et d'1,5% en 1938, à 5% en 1943. Et enfin, la durée moyenne et médiane des peines d'emprisonnement pour comportement homosexuel a augmenté considérablement sous l'occupation nazie, elle aussi. Les deux lignes rouges et oranges représentent les peines sans sursis, et les deux lignes bleues, c'est-à-dire une pour la moyenne, une pour le médian, représentent les peines avec sursis. Malheureusement, pour ce qui est de la persécution judiciaire, tous ces graphiques ne concentrent que le système de persécution du protectorat, c'est-à-dire en application de l'ancien code autrichien, c'est-à-dire personnes de l'ethnicité tchèque. Malheureusement, pour ce qui est de la persécution judiciaire au sein du système de justice du Reich et dans le protectorat, un tel sondage statistique n'a pas encore été effectué. Mais il est donc évident que la justice pénale du protectorat, tout en agissant dans les anciens cadres structurels de la Première République, le même code pénal, le même code de procédure pénale, a été amenée par le régime instauré par le Reich à adopter une attitude plus sévère, dans les limites des anciens cadres structurels. Ce qui, après la libération de la Tchécoslovaquie en 1945, a permis de faire appliquer l'amnistie proclamée par le président Beneš aussi aux prisonniers pour le paragraphe 129b. Puisque ici, le taux de persécution sous l'occupation différait considérablement par rapport à la période antérieure à l'occupation, à la différence d'autres crimes où la persécution sous l'occupation n'a pas changé par rapport à la Première République. Donc ces prisonniers ne pouvaient pas bénéficier de l'amnistie. Or, comme il résulte d'une comparaison de certains éléments clés des cadres de la justice pénale du Reich et du protectorat, ces dernières étaient toujours, au moins pour ce qui est des hommes, préprogrammées d'une manière plus favorable à l'accusé. Les quelques dossiers des procédures pénales devant les tribunaux du Reich dans le protectorat que j'ai pu consulter montrent clairement qu'une personne jugée selon le droit du Reich pouvait s'attendre à une punition considérablement plus sévère que celle jugée pour le même délit selon le droit du protectorat, surtout à cause du cumul des peines pour chaque partenaire sexuel, qui était le cas dans le système du Reich, et des circonstances aggravantes, telles prostitution ou actes entrepris avec un partenaire de moins de 21 ans, pour lesquels le droit du Reich prévoyait automatiquement des punitions plus sévères, ce qui n'était pas le cas du code pénal du protectorat. Mais de ces éléments structurels, je voudrais souligner le rôle de la jurisprudence constante de la Première République. Au fur et à mesure, certains avocats et médecins favorables au mouvement de l'émancipation homosexuelle avaient développé, grâce à plusieurs recours à la Cour suprême, un milieu juridique où l'on puisse soit se faire libérer, soit se faire condamner avec sursis, pourvu qu'on dispose d'une attestation disant qu'on est atteint d'une homosexualité innée. Cette méthode d'obtenir une atténuation de la peine a continué à fonctionner aussi pendant l'occupation, et des condamnations assorties de sursis n'étaient pas rares en cette époque. Une des personnalités principales de ce mouvement pro-homosexuel de la Première République, l'avocat František Čerovský, dont voici la photo, a même réussi à faire publier en 1942
un article dans la revue de la police et de la gendarmerie du protectorat, dont voici la couverture, intitulé « Punition de l'homosexualité », où il a dénoncé le caractère délictueux des actes homosexuels et appelé à une réforme du code pénal sur ce sujet. Naturellement, la loi n'a pas été modifiée, mais le seul fait qu'on ait permis, en pleine occupation, la publication d'un tel article dans une revue officielle, me semble fort intéressant. Il se pose évidemment la question de la déportation pour homosexualité dans le protectorat. Donc, des 5 cas jugés par les tribunaux du Reich à Brno, que j'ai consulté, aucun condamné n'a été déporté après l'expiration de sa peine. Bien sûr, on ne peut aucunement en conclure à une tendance générale. Or, j'ai constaté le même pour les cas jugés par les tribunaux du protectorat, et là, vu une base documentaire beaucoup plus étendue, je me permettrai déjà de dire que les accusés tchèques n'étaient pas menacés par la déportation. Mais, et c'est un point important, seulement si leurs activités n'avaient pas d'implication ou de connotation politique. Dans ce cas, qui est attesté dans quelques dossiers de la Gestapo que j'ai consulté, l'enquête n'a pas été menée par la police du protectorat, mais par la Gestapo, qui n'a pas traduit ses accusés ou bien ses arrêtés devant un tribunal, mais qui a décidé, à l'issue de son enquête, de leur sort toute seule. Dans ces cas, comme par exemple dans celui de cet homme dans la photo figure à droite, Wojciech Pechanek, la Gestapo a prêté dans son dossier une attention non négligeable, voire, je dirais, une attention très importante, à l'homosexualité de l'intéressé, mais la raison principale que la Gestapo a évoquée dans son acte final, la raison principale de sa déportation, a été représentée par ses activités de résistance. Dans ce cas, l'abri fourni à un agent soviétique. Il a été déporté dans le camp d'Auschwitz et il a survécu cette déportation. Un autre cas de figure, pour l'instant également attesté seulement dans un tout petit nombre de cas, la déportation dans un camp de travaux forcés géré par les autorités du protectorat. Il en existait plusieurs qui sont connus dans l'historiographie actuelle tchèque, surtout comme des lieux de déportation des Roms par les Tchèques, donc non pas par les autorités allemandes, mais par les autorités de protectorat. Et comme tels, ils occupent dans le débat public actuel en République tchèque une place assez privilégiée, puisqu'il s'agit de la culpabilité des Tchèques, du comportement des Tchèques pendant l'occupation, non pas du comportement des Allemands. Or, dans la première phase de l'existence de ces camps de protectorat, ils n'étaient destinés pas seulement à recevoir des Roms, mais à recevoir tous les types de personnes considérées comme vagabondes ou sans une occupation honnête. Tel a été aussi le sort de l'homosexuel Albin Pleva, dont voici la photo à gauche, qui gagnait sa vie en danseur, en travesti ambulant et prostitué occasionnel, ou de l'ancien militant du mouvement de l'émancipation homosexuelle de la Première République, Bohumil Kosovski, qui gagnait sa vie comme animateur de séances spiritistes. D'autres cas, s'il y en a eu, restent à découvrir. Permettez-moi de terminer mon exposé en mentionnant deux victimes du nazisme dans le protectorat de Bohême-Moravie. Ce monsieur, Willy Bondy, juif et homosexuel de Brno, a été déporté dans le camp d'Auschwitz en 1941, quelques mois avant le début de la déportation systématique des Juifs de Brno. La raison pour l'anticipation de sa déportation a été, selon toute évidence, son homosexualité. La deuxième victime est le prêtre Alphonse Zadragel, membre du monastère des Augustins de Brno, qui a été condamné à mort pour, comme le principal chef d'accusation, un rassemblement d'armes, écoute de la radio de Londres et divulgation des informations ainsi apprises, et comme un chef d'accusation secondaire, homosexualité. Il semble même qu'il s'est organisé dans ce monastère et autour de ce monastère une petite cellule homosexuelle de résistance, mais le père Zadragil a été le seul condamné à mort et exécuté. Il y a 2 ans, on a fait installer une petite plaque de commémoration de Willy Bondy, le Stolperstein, dans le trottoir devant la maison où il avait vécu, à Brno. À cette occasion, on a organisé une petite conférence sur son sort et son contexte. De ce jour date la première photo à gauche. Et quel était mon étonnement quand j'ai reçu quelques semaines après une photo prise par une de mes amies qui, en rentrant chez elle d'un bar une nuit, en prenant la rue où se trouve le Stolperstein, a découvert un petit drapeau arc-en-ciel planté par un inconnu à côté. Merci de votre attention.
Vous avez vraiment transporté Moravie et Bohème. Maintenant, le dernier intervenant vient de Strasbourg, Frédéric Stolt. Frédéric, vous êtes doctorat à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la justice allemande, militaire comme civile, sous le national-socialisme. Et vous avez produit l'année dernière un documentaire, Chronique d'une justice militaire, en 2014. Donc vous allez nous présenter la situation des homosexuels en Alsace-Moselle annexée. Si vous faites des présentations, vous bougez, vous prenez le microphone, sinon ça marche. Donc vous avez 20 minutes. Oui, oui, le micro marche. Oui.
Merci de me donner la parole. Donc, pour ce qui est de l'Alsace-Moselle annexée. Alors, avant la guerre, les homosexuels alsaciens et mosellans évoluaient dans un cadre juridique favorable, puisque le code pénal français ne pénalisait pas les pratiques homosexuelles, mais ils avaient déjà connu une période de répression judiciaire lors de la première annexion allemande entre 1871 et 1918. Comme dans le reste de l'Empire, les condamnations étaient cependant rares et les peines faibles, surtout durant la Première Guerre mondiale. En revanche, avec la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre une nouvelle période de répression pour les homosexuels alsaciens et mosellans. Ces territoires sont annexés de facto. Ces territoires, l'Alsace et la Moselle, sont annexés de facto suite à la défaite française de juin 40, c'est-à-dire qu'ils sont placés sous l'autorité d'une administration civile allemande, dirigée par les Gauleiter Robert Wagner pour ce qui est de l'Alsace, et Joseph Burkel pour la Moselle. Et ces territoires sont traités donc comme des territoires allemands, malgré l'absence de tout traité international. De ce fait, la situation des homosexuels y est a priori différente de celle des homosexuels de la France occupée, qui ne sont eux pas considérés comme des Allemands de sang, Volksdeutsche. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter la politique allemande vis-à-vis des homosexuels d'Alsace et de Moselle, en se demandant en quoi cette politique est ou non différente de celle à l'encontre des homosexuels du restant du territoire français, et en quoi cette politique est ou non similaire à celle pratiquée dans les territoires de la vieille Allemagne. Dans une deuxième partie, je vous présenterai à partir de quelques sources la manière dont les homosexuels d'Alsace et de Moselle ont vécu cette période. Alors, je précise tout de suite que je ne parlerai que d'homosexualité masculine, puisque celle féminine n'est pas pénalisée en tant que telle par le code pénal allemand. Et on notera un déséquilibre entre l'exposé de la situation alsacienne, sur laquelle je travaille en ce moment, et celle mosellane, pour lesquelles d'ailleurs peu de sources sont disponibles. Alors, d'emblée, concernant la répression, il nous faut distinguer la situation alsacienne et mosellane. Pour ce qui est de l'Alsace, on a pu retrouver 351 noms d'hommes détenus pour homosexualité, et cela sans prendre en compte les détenus du camp de concentration du Struthof Netzweiler. Alors que pour la Moselle, Cédric Neveu, qui a travaillé sur le sujet, n'en a identifié que 23. Il en a conclu, je cite, « En Moselle, la répression au titre du paragraphe 175 a été un phénomène extrêmement marginal. » Alors, deux hypothèses peuvent expliquer cet équilibre. Soit les sources mosellanes ont disparu, soit il y avait véritablement une différence de politique menée par Joseph Burkel en Moselle par rapport à celle de son confrère Robert Wagner en Alsace. Alors, au départ, la répression n'a pas été judiciaire, puisque les paragraphes 175 et 175A du code pénal allemand ne sont introduits en Alsace et en Moselle qu'en 1942. Au départ, les mesures extrajudiciaires sont donc destinées à pallier l'absence d'outils législatifs adaptés, mais comme à l'intérieur du Reich, elles viennent également par la suite en complément des mesures judiciaires, lorsque celles-ci sont considérées comme insuffisantes. Première des mesures extrajudiciaires, l'expulsion du territoire, donc qu'on ne retrouve pas à grande échelle en vieille Allemagne. Donc expulsion vers la France non annexée ou interdiction de rentrer de France en territoire annexé. C'est par exemple le cas de l'Alsacien Charles B., expulsé pour homosexualité à l'âge de 50 ans. Cette politique est ordonnée par l'administration allemande locale et mise en œuvre par la police, principalement en 1940-1941. On peut estimer ces expulsions à quelques centaines d'après les quelques rapports qui émanent notamment d'Alsace. Et cette mesure a sans doute davantage concerné les homosexuels mosellans que les Alsaciens, car Joseph Burkel a de manière générale privilégié ce type de mesure contre les mosellans indésirables. Mais la mesure n'est cependant pas systématique. Des homosexuels arrêtés en 1940-41 n'ont pas tous été expulsés. S'ils étaient considérés comme rééducables, ils étaient conservés sur place, soit libérés, soit mis en camp. Et j'en arrive donc à la deuxième mesure extrajudiciaire, la détention en dehors de tout cadre judiciaire au nom de la Schutzhaft ou de la Sicherungshaft, qui existe également en Allemagne. Alors, ces détentions peuvent se faire dans les prisons d'Alsace-Moselle, mais elles se font principalement dans les camps, donc en dehors du système pénitentiaire classique, et notamment dans le camp de rééducation, Erziehungslager, de Schirmeck. Alors, contrairement au camp de concentration, ce camp ne dépend pas de la SS, mais il est directement placé sous l'autorité de Robert Wagner en Alsace et de la police allemande en Alsace. Et c'est eux qui décident de l'internement dans le camp. Alors, au moins 77 personnes qui ont été arrêtées pour homosexualité ont été détenues à Schirmeck, sans qu'on puisse toutefois toujours certifier que l'homosexualité a bien été le motif d'internement. Donc, c'est des personnes qu'on retrouve au préalable comme arrêtées par la police ou jugées pour homosexualité et qu'on retrouve un peu plus tard dans le camp. Alors, ils y sont détenus soit en attente de l'expulsion vers la France non annexée. C'est par exemple le cas de Albert N., de 26 ans, qui est expulsé en 1942. Soit ils y sont pour y être rééduqués par la propagande nationale-socialiste, le travail et les conditions de détention particulièrement brutales, et au moins deux personnes détenues pour homosexualité y décèdent. L'internement à Schirmeck peut remplacer une mesure judiciaire, c'est le cas de Pierre Zell dont on a parlé au début de cette journée, qui est interné à 17 ans en 1941, mais ce peut aussi être un complément de la condamnation judiciaire. Et c'est notamment le cas de Eugène, donc âgé de 31 ans, qui purge une peine de 2 ans de prison et à l'issue de la peine est placé à Schirmeck. Alors si certains finissent par être libérés de Schirmeck, d'autres sont ensuite transférés dans de véritables camps concentration, et notamment en Alsace, dans le camp de Natzweiler au Struthof. Alors, d'après les travaux de M. Jean-Luc Schwab, ici présent, et Bouligny et Hofschild, au moins 312 personnes ont été détenues pour homosexualité au Struthof, sur un total de 52 000 détenus. Mais il s'agit en grande majorité de citoyens allemands, plus de 90%, et on ne compterait que 10 Alsaciens et 3 Mosellans. Certains sont ensuite transférés dans d'autres camps à l'intérieur du Reich, Alors, on peut citer l'exemple de Armand F., un Alsacien condamné en 1942 à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité, puis déporté en 1944 au Struthof, et ensuite à Dachau et à Buchenwald. Au total, 6 d'entre eux meurent en camp. On peut citer l'exemple de Jean O., qui, bien qu'innocenté par un tribunal de Mulhouse, est ensuite transféré en centre psychiatrique en Alsace, et finalement déporté au Struthof, où il décède en 1944. Ou encore l'Alsacien Édouard M., condamné en 1942 à 1 an et demi de travaux forcés, puis déporté en 1943 au Struthof, et qui décédera par la suite à l'intérieur du Reich. Voilà pour les mesures extrajudiciaires. Ensuite, pour les mesures judiciaires. Alors, durant la première phase de l'annexion, donc 40-41, il n'y a pratiquement pas de répression judiciaire de l'homosexualité en Alsace, car les magistrats ne disposent pas d'outils législatifs adaptés. Le code pénal français qui est maintenu durant ces 2 premières années ne pénalise pas les pratiques homosexuelles en tant que telles. Et l'article 330, donc, qui sanctionne les outrages publics à la pudeur, n'est pas utilisé par les Allemands pour leur permettre de condamner spécifiquement des homosexuels. On relève cependant que le Landgericht de Strasbourg condamne 4 hommes, dont 3 Alsaciens, en vertu des paragraphes 175-175A, en 1941, c'est-à-dire avant même que ces lois ne soient introduites en Alsace. Elles ne le sont que le 30 janvier 1942 en Alsace et le 1er mai 1942 en Moselle, sur l'initiative donc des 2 chefs de l'administration civile. Ce n'est cependant pas une mesure spécifique contre les homosexuels, mais la résultante de l'introduction en bloc de tout le code pénal allemand. Notons que des relations homosexuelles antérieures à 1942 peuvent et sont également condamnées au nom d'un principe de rétroactivité de la loi pénale en Alsace. Alors, parmi les archives dont nous disposons, ont pu être trouvées 54 condamnations par le Landgericht de Strasbourg, 2 par celui de Saverne, 1 par l'Amtsgericht de Colmar. On note aussi 2 condamnations par le Sondergericht de Strasbourg. Donc c'est des cas qui ne concernaient pas que des affaires d'homosexualité, mais qui complétaient des affaires autres, et notamment politiques. Et on note aussi 2 condamnations par le SS und Polizeigericht 11 de Stuttgart, qui siégeait parfois à Strasbourg. Alors, pour ce qui est des peines, c'est le camembert en haut à gauche pour les peines rendues par le Landgericht de Strasbourg. On s'aperçoit que 60% des peines rendues sont des peines de travaux forcés. Si on compare aux peines rendues à l'intérieur du Reich, en prenant l'exemple du sud du pays de Bade, c'est le camembert en bas à gauche, on s'aperçoit que les peines semblent beaucoup plus lourdes en Alsace que outre-Rhin, dans le sud du pays de Bade. La peine la plus lourde est rendue par le SS und Polizeigericht à l'encontre de Josef M., dont vous avez la photo, un policier allemand ayant entretenu une relation homosexuelle avec un civil alsacien et donc condamné à mort et finalement exécuté à Stuttgart. Alors, qui sont les acteurs de cette répression? Évidemment, beaucoup la population locale, comme il l'a été dit au départ, et donc un voisin, un collègue de travail, etc., même des membres de la famille, notamment Charlotte M., qui est l'épouse de Josef M., qu'on vient de voir, et qui a dénoncé son mari donc, pour homosexualité. Vous avez aussi des dénonciations par des partenaires sexuels, donc avec la technique de la boule de neige, comme cela a été dit. Mais le plus intéressant, parmi les policiers et magistrats qui appliquent la loi allemande, le paragraphe 175, vous avez un certain nombre de fonctionnaires français qui sont restés en poste, et notamment Paul K., qui est un magistrat français qui reste en poste en Alsace et qui va notamment présider 2 procès pour homosexualité à Strasbourg. La population locale ralliée au régime et les fonctionnaires français restés en poste ont donc joué un rôle dans cette répression, et notamment au niveau du renseignement. S'il n'y a pas de preuve d'un fichier homosexuel, comme ça a pu être le cas dans d'autres territoires, en revanche, en Alsace, on peut dire qu'il y a une transmission de l'information de manière orale. Vous avez des policiers français qui témoignent lors de procès pour homosexualité en défaveur de la personne incriminée. Vous avez aussi des Ortsgruppenleiter, représentants du parti, qui localement peuvent être des Alsaciens qui, localement, sont chargés de dénoncer les personnes à expulser, notamment les homosexuels. Alors, maintenant qu'on a vu le contexte dans lequel évoluent ces homosexuels en Alsace et en Moselle, intéressons-nous un peu à leur vie. Donc, pour ce qui est du profil des homosexuels réprimés, il est extrêmement varié. Je vous ai mis quelques photos du commissariat de police de Strasbourg pour vous montrer la variété des personnes réprimées. Alors, sur les 351 détenus d'Alsace, le trois quarts sont des citoyens français originaires d'Alsace et de Moselle. Donc, ça a surtout concerné des Alsaciens mosellans. On compte une petite minorité d'Allemands de l'ancien Reich, 12%, et quelques personnes originaires de Suisse, de Tchécoslovaquie ou encore d'Italie. Ils appartiennent principalement aux classes populaires. Toutes les classes d'âge sont représentées. Le plus jeune a 15 ans. Il sera envoyé à Schirmeck d'ailleurs. Le plus âgé, 74 ans. La grande majorité est célibataire, mais certains sont mariés ou veufs et ont des enfants. Il est d'ailleurs demandé lors des expulsions si les femmes veulent accompagner leur mari ou non vers la France dite de l'intérieur. Alors, depuis le début, on parle d'homosexuels, mais si ces personnes sont effectivement décrites par les services de police et les magistrats comme étant homosexuels, il est intéressant de voir comment elles-mêmes se considèrent. Alors, sur les 54 condamnés du Landgericht de Strasbourg, seuls 9 affirment véritablement une homosexualité exclusive et 3 une bisexualité. Alors, ils peuvent se définir de manière identitaire, mais c'est surtout par des pratiques qu'ils se définissent plus que par une identité. En fait, la grande majorité, 39 cas, se caractérise par une absence de définition de soi, qui s'explique par une absence de questionnement de la justice, on ne leur demande pas, ou par une stratégie défensive, évidemment, mais aussi par une impossibilité de se dire. L'idée que le contexte judiciaire empêcherait les accusés d'affirmer une homosexualité est à nuancer. Du côté badois, donc pour reprendre l'exemple du pays de Bade, outre-Rhin, on retrouve des cas où des personnes incriminées tiennent un discours identitaire très marqué, notamment influencé par les théories de Magnus Hirschfeld ou de Adolf Brandt. En revanche, les homosexuels alsaciens ne semblent pas avoir ces références culturelles. Alors, sans doute du fait de leur nationalité française, ils ont grandi dans la sphère culturelle française, mais aussi peut-être du fait de leur niveau socio-économique, puisqu'on a vu qu'ils appartiennent principalement aux classes populaires. Mais voilà. Et pour finir, comment ces gens se sont comportés dans ce contexte répressif ? Alors, en réalité, la répression n'est pas systématique. Il existe donc une certaine marge de liberté qui est exploitée par les homosexuels, moyennant toutefois une adaptation de leur comportement. Alors, par exemple, on constate que durant toute la guerre, les espaces de sociabilité homosexuelle d'avant-guerre continuent d'être extrêmement fréquentés, que ce soit les espaces privés où se rencontraient plutôt les hommes des classes supérieures, mais également les espaces publics, les parcs, les toilettes municipales. À l'exception d'une descente de police ponctuelle dans des toilettes publiques de Strasbourg, suite à une dénonciation, donc vraiment un événement très précis, il semblerait que la police n'ait jamais pris l'initiative de mettre totalement fin aux pratiques homosexuelles dans l'espace public, bien qu'elles fussent largement connues des services de police et des magistrats. En tous les cas, chacun était informé du nouveau contexte répressif, notamment via la presse et les rumeurs circulant dans les milieux homosexuels. L'inquiétude et la méfiance étaient quotidiennes, notamment la crainte d'être envoyé à Schirmeck qui revient de manière récurrente. Alors si certains vont jusqu'à fuir l'Alsace du fait de ce nouveau contexte, et c'est notamment le cas de Emil Spitz en octobre 1940, dont vous avez la photo, la plupart adaptent simplement leur comportement. Alors, ça peut notamment passer par la recherche de relations uniquement anonymes pour éviter tout risque de dénonciation. Le réflexe de brûler ses lettres aussi pour éviter qu'elles ne soient saisies lors de perquisitions et que d'autres personnes soient arrêtées. Voilà. Pour conclure, je dirais donc que les homosexuels, ou du moins les personnes ayant des pratiques homosexuelles alsaciens-mosellans, ont particulièrement été réprimés dans les territoires français annexés par les autorités allemandes et parfois avec le concours de citoyens français. Sans toutefois que cette politique n'apparaisse comme une priorité de l'annexion. Tout particulièrement en Moselle. La situation des homosexuels alsaciens mosellans, malgré une certaine marge de liberté, était donc sans commune mesure avec celle des homosexuels des autres départements français, non pas simplement à cause d'une différence de cadre juridique, donc le fait que la loi allemande soit appliquée en Alsace et en Moselle et pas ailleurs, mais aussi parce qu'ils sont considérés comme tenants de la race allemande et que l'administration et la police allemande s'étaient donné elles-mêmes pour mission, comme dans la vieille Allemagne, de les combattre. La répression en Alsace-Moselle a cependant pris des formes plus variées qu'à l'intérieur du Reich, et on peut se demander dans quelle mesure le camp de rééducation de Schirmeck n'a pas représenté pour beaucoup d'homosexuels alsaciens-mosellans une alternative à la déportation en camp de concentration. On a vu qu'on a relativement peu de cas de déportation en camp de concentration. Et finalement, ça rejoindrait là la politique plus générale de Robert Wagner, qui s'est toujours opposé à l'envoi massif d'Alsaciens en camp de concentration, de manière générale, pas uniquement par rapport aux homosexuels. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Frédéric. Je pense qu'on a au moins 10 minutes pour la session questions-réponses. J'ouvre la session, s'il vous plaît. Posez vos questions. Est-ce que vous avez pris note? C'était long. Mais vous devriez avoir l'habitude là. Dans ces milieux.
Il a allumé. Ah, ça marche. Donc, je ne sais pas, je me promène avec ce micro, si quelqu'un a des questions comme ça. Elles pourront être.
On a déjà deux, première rang.
Je trouve que ce n'était pas votre sujet, mais j'aurais voulu vous demander si il y avait une. Quelle était la politique du régime de Vichy, évidemment, donc dans cette France non annexée, par rapport à ce qui se passe en Moselle et en Alsace. Et plus généralement, donc, est-ce qu'on peut voir une différence dans le cas français entre, on va dire, la zone véritablement occupée, le régime de Vichy, au moins jusqu'en 1942, et l'Alsace-Moselle annexée.
Je ne sais pas, ça marche.
Oui, est-ce qu'on prend toutes les questions et... Oui, ça sera mieux.
Non, d'abord la réponse, enfin, j'ai une autre question.
D'accord, allez-y.
Donc la réaction de Vichy, vous pensiez par rapport à ce que font les Allemands en Alsace ou... Oui, l'homosexualité. Ben donc, comme on disait, le cadre français juridique ne pénalisait pas l'homosexualité avant 1940. Mais effectivement, en 1942, Vichy, une loi sanctionne l'homosexualité masculine avec des mineurs. Donc là, vous avez un changement qui conduit donc à des condamnations juridiques spécifiquement pour des actes homosexuels. Au-delà de ça, il y a des études qui ont été menées par la Fondation pour la mémoire de la déportation et qui a pu établir quelques cas, mais très rares, de citoyens français donc, qui ont été déportés suite à une arrestation pour homosexualité, mais pas forcément au motif de l'homosexualité.
Ok. Ma question se réfère à ce que vous avez dit, M. Straub, avec cette chose que j'ai notée, impossibilité de se dire, c'est-à-dire à qui je suis ou que la personne se déclare homosexuelle. Ça m'intéresse pour tous les cas qu'on a eus, c'est-à-dire pour tous les pays, l'impossibilité de se dire et la possibilité de se dire. Comment ça se passe en Tchécoslovaquie, comment ça se passe en Hongrie et en Autriche. Est-ce que la culture homosexuelle, avant la mise en vigueur d'une pratique plus stricte et plus agressive pendant la période de la guerre, est-ce qu'avant il y avait cette pratique de se dire, ou est-ce que se dire homosexuel ne se faisait pas? justement, parce que moi, parlant plus tard, je vais parler de l'Allemagne, il y a ce mot de Totgeschwiegen. Et est-ce qu'on se tait ou est-ce qu'on se dit dans les pays que vous avez décrits? C'est ma question pour vos quatre, en principe.
Pour ce qui est, pardon, pour ce qui est de la Tchécoslovaquie, dans les années 30, il y avait une revue homosexuelle appelée La Voix, parfois La Voix de la minorité sexuelle, où justement les auteurs se disaient c'était vraiment un acte identitaire de faire publier, faire paraître cette revue qui s'est maintenue pendant 4 années à peu près. Pendant, et aussi, il y avait quelques auteurs des romans pas trop importants pour la littérature en général, mais des romans justement de cette vocation identitaire. Par contre, pour ce qui est de l'époque de l'occupation, bien sûr, la revue, la publication de ces romans homosexuels ont cessé. Et la seule source, ou le seul type de source, ce sont des procès-verbaux. Un procès-verbaux de ces procédures pénales. Et là, dans le cas de la police du protectorat, la première question dans tous les procès-verbaux était « Êtes-vous homosexuel ?» Et dans tous les procès-verbaux, on peut lire la réponse. Donc, parfois, la première phrase du discours de l'accusé est « J'avoue que je suis homosexuel, parfois je nie que je sois homosexuel, mais il faut interpréter cette première phrase toujours dans le contexte de la situation communicative dans laquelle elle a été prononcée, et je ne penserai pas que dans tous les cas elle soit liée strictement à la réalité.
I think this is a very complex question. Can be answered quickly. I've gone into this a little bit by stating that there was no gay or lesbian scene in Austria compared to Germany, so no self-affirmed group. There were publications, mostly from Germany, which were also sold in Austria. Some tried to create these journals with an Austrian touch, also lesbian newspapers. But yes, there were people who defined themselves in one or the other way homosexual, meaning with one or the other word homosexual. Even in the court files, which are my primary sources, and which is very problematic to analyze on this regard, you find people who say, yes, that's how I was born, how I have always been, mostly filtered by the authorities, by the police, taking notes of what these people said. Only in very few cases you get an expression where you think, okay, this is what that's the wording the person used. But yes, there are expressions of homosexual identity.
I will ask this question in English, and it concerns the medicalization of homosexuality. And was there in, and it's also for all of you, but it's rather short, was there a possibility for the courts to declare the prosecuted persons not accountable for their acts because of their homosexuality and send them off to a mental hospital? And is there a possibility in that case to follow them there and see what happened in the mental hospital?
Qui va commencer?
Je peux simplement donner des exemples, pas pour l'Alsace, Mepolpeik Bad, donc à l'intérieur de la vieille Allemagne, donc des personnes effectivement qui ont été, qui n'ont pas été condamnées à des peines de prison ou de travaux forcés, mais en raison de leur nature, donc, par exemple parce qu'ils étaient considérés comme malades, ils étaient classés en centre de soins, centre psychiatrique. Et pour le Pays de Bâle, on a quelques exemples comme ça, notamment deux sur de personnes qui ont été placées sur décision judiciaire dans des centres de soins. Et par la suite, le procureur a demandé des informations sur eux quelques mois, un an plus tard, pour savoir comment ils évoluaient. Et leur trace a été perdue. Et vers la fin de la guerre, le procureur apprend qu'ils sont morts tous durant la même période dans le même centre de soins. Donc on peut faire l'hypothèse qu'ils aient été victimes d'euthanasie dans ces centres. Donc il y a quelques exemples comme ça.
Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre? Would you like to?
As quick as can be. There's a very long list of Supreme Court decisions that were even published long before the Nazis arrived concerning the question whether a person who is homosexual is responsible for committing this crime. And the Supreme Court is a long regime of aspects that can be asked. And in all the cases, the Supreme Court said no. So you are responsible, even though you are born this way. In many cases, in Austria, psychiatrists were asked to give their professional opinion, but this hardly influenced the decision of the police later on whether this person is going to a concentration camp or not, because this was not the decision of the court. The decision of the courts, they sent them to prison or whatever, and afterwards the police took them and decided whether or not.
Monsieur? Non, on va prendre encore une, s'il y en a.
Oui, non. Merci. Je m'excuse, je parle en anglais. This session was announced as homosexuals during the Second World War. Very interesting, but I see that most of your evidence comes from prosecuted homosexuals, from persecution and prosecution. And in the Netherlands, we tried to extend our research the last years also to the other cases of gays and lesbians that were not prosecuted, but were mainly, were they working in the resistance? Can we find evidence of that? Secondly, can we find evidence of hiding among friends, which is generally called in the Netherlands the ways gays and lesbians survived? Many more people were living hiddenly than that there have been prosecuted. And the third thing, also we tried to find evidence of so-called confiscations, crushing gay life. For me, it's very interesting that I see pictures from Berlin, SS soldiers posting for the famous gay bars in El Dorado during the regime. So apparently these places could stay open, also under control. So the third thing is crushing gay life, frustrating it, apart from prosecution. My question is, is your research, does it give evidence to these other phenomena, hiding, working in the resistance, and a gay life that basically goes on?
So, question for both of you.
As the microphone is here, I start. these aspects are not our prime targets, just because of the simple fact that there are so many sources on the persecution which have not been researched so far. And there are so many questions to ask these files, it's hardly possible. But what we can tell from these sources, the little gay life that existed, there was no scene with big bars and so on, but there were bars where gay men met, not officially, but the Nazis knew. The Nazis knew of the bathhouses, of the toilets, etc. And as my colleague stated, they were not closed. I found proof in one of the files that for one of the central bathhouses in Vienna, in the 6th district, there is the Hasi Bath, everybody knew that gay men met there and had sex there. And so the police and the army and the SS played there. It's forbidden for policemen to use this bathhouse because they knew of that, but they didn't close the bathhouse. It somehow, they used it as a mousetrap. There's a, especially one policeman from Vienna who went there every other week and caught the people there when they left the bathhouse, and everybody knew that.
En ce qui concerne l'ancienne Tchécoslovaquie, c'était à peu près pareil comme à Vienne. La vie des homosexuels à Prague et à Brno, ce sont les deux villes pour lesquelles nous avons le plus d'évidence, a continué, je dirais, fleurir comme avant. Il y avait des bars où on se rencontrait. Les promenades canoniques homosexuelles ont continué à fonctionner. La police le savait, mais parfois il y avait une raid organisée dans un de ces bars, mais il continuait à fonctionner. Ce qui a été un élément intéressant par rapport à la période de la Première République, c'était une augmentation de la présence des chanteurs, des maîtres chanteurs dans cette infrastructure. Et dans un des cas que j'ai étudié, et aussi l'historien britannique Mark Cornwall, que vous connaissez peut-être, a découvert un cas de ce type où un groupe de chanteurs qui justement était s'intéressait au chantage des homosexuels a été condamné pour des peines beaucoup plus sévères que les homosexuels qui étaient leurs victimes. Et dans ce cas, dans le cas décrit par M. Cornwall, le groupe des chanteurs a été immédiatement exécuté. Donc dans ce cas, les autorités ont même offert une espèce de protection aux homosexuels par rapport à leurs ennemis, les chanteurs. Et oui, donc voilà pour la Tchécoslovaquie.
Patrick.
Pour l'Alsace, donc des lieux de rencontre donc de culture homosexuelle en Alsace, il n'y en a pas. Alors qu'il ne semble pas y en avoir, d'après ce qu'on lit dans les sources, il peut y avoir des lieux plus informels, mais pas qui s'affichent ouvertement comme lieux de rencontre ou de distraction homosexuelle. Alors qu'à Bâle, en Suisse, toute proche, une ville de la même grandeur, vous en aviez. À Karlsruhe même, alors en Allemagne, alors que c'était régné déjà le code pénal allemand, vous en aviez aussi. Mais à Strasbourg, on n'en trouve pas trace. Et pour ce qui est de la solidarité vis-à-vis des homosexuels réprimés, j'en ai aucun exemple, sauf un exemple qui témoigne d'une solidarité, mais entre homosexuels. Homosexuel évadé notamment, qui trouve refuge chez un ami homosexuel qui le cache. Et voilà. Et pour ce qui est de la résistance éventuellement d'homosexuels, on peut citer pour l'Alsace le cas de Emil Spitz, dont vous aviez la photo à la fin de mon PowerPoint. Donc cet Alsacien qui a pris l'initiative de fuir l'Alsace en octobre 1940 pour, face à la répression contre les homosexuels, a intégré un réseau de résistance. Il sera d'ailleurs déporté au Schlutthof pour ça. Il est principalement connu après la guerre comme résistant. Et ce n'est que par la suite qu'il va faire état de son homosexualité.
Merci Frédéric.